Les enfants de Chronos.
Alors Philippe Papet, professeur d'histoire, longtemps enseignant à Creil et à Senlis, et donc spécialiste, si on peut dire, des rapports entre les catholiques et leurs adversaires entre 1870 et 1914. En 1877, de nouvelles élections confirment le succès des républicains dans le Valois, et même au-delà du Valois, dans l'Oise. Ce succès se traduit non seulement dans les villes, Creil, Crépy, mais aussi dans les villages du Valois. Ça traduit l'importance du camp républicain dans les secteurs ruraux. Et toutes les élections suivantes, 1881, 1885, 1889, 1893, confirmeront cet ancrage donc du camp républicain, qui l'emporte presque systématiquement sur le camp conservateur. Un exemple parmi d'autres, en 1885, la liste radicale, donc le républicain les plus à gauche, l'emporte dans tous les villages du canton de Crépy, sauf Emmeville et Avossienne. Alors évidemment, ce succès des républicains va permettre la première série de lois de laïcisation entre 1880 et 1886. On commence par des symboles forts que chacun connaît, le choix du 14 juillet comme fête nationale, celui de la Marseillaise comme hymne national. Mais l'essentiel, bien sûr, c'est de, entre guillemets, débarrasser l'école publique de l'influence des congrégations. Mais aussi, bien sûr, de réduire partout où c'est possible le rôle de ces congrégations, de ces ordres religieux. Je prends quelques exemples presque immédiats après la victoire électorale de 1877. En 1880, l'ordre est intimé aux bénédictins de Béthisy de quitter le bourg où ils s'étaient installés 25 ans auparavant. Mais naturellement, l'essentiel, c'est donc le passage à la laïcité dans les écoles publiques, dont je vous ai précisé tout à l'heure que certaines étaient encore tenues par les congrégations. Il va y avoir donc toute une campagne de laïcisation, ce qui ne sera pas très simple dans la mesure où il faut, bien sûr, qu'il y ait des instituteurs laïcs et des institutrices laïques pour les former. Ce sera en 1884 que sera créée l'École normale de Beauvais, qui aura pour tâche, donc, bien sûr, de se substituer aux congréganistes. Alors, partout dans les villages, il va y avoir cette substitution, notamment donc à Vaumoise, à V, à Nanteuil, enfin toutes celles que j'ai citées tout à l'heure. Alors, ça se fera sans trop de dommages, dans la mesure où il y a, je vous l'ai dit, cet accompagnement de la formation dans les écoles normales. Alors, ces progrès de l'école, enfin du camp républicain, se traduit aussi par la mise en place de mouvements de pensée, de libres penseurs, qui commencent à apparaître un peu partout dans l'Oise, à Beauvais en 1880, à Creil en 1881, à Montaterre, à Nogent, à Méru, à Andeville. Et ces associations de libres penseurs se mettent en place dans les années 1880, dans le cadre général de la laïcisation. Vous savez que leur objet était surtout d'organiser des obsèques civiles, autre témoignage de la laïcisation. Et ça va progresser dans le département. Les libres penseurs donc organisent ces obsèques civiles, surtout dans les cantons de Creil et de Crépy, qui se distinguent dans l'Oise par leur avancée dans ce domaine. Bon, ça n'est pas spécifiquement du département de l'Oise. On sait qu'il y a eu ça pour Gambetta en 1882, pour Courbet en 1877, pour Victor Hugo en 1885, ces obsèques sans le concours de la religion. En dehors de la laïcisation des écoles et de cette société de libre-pensée, signalons aussi dans les années 1880-85 des actes de vandalisme à l'encontre des églises isolées. Par exemple, je ne prends qu'un exemple, en 1881, l'église de Brasseuse, Brasseuse c'est entre Crépy et Senlis, lieu d'un très ancien pèlerinage cher aux catholiques du Valois, est fracturée, en même temps que Notre-Dame de Senlis, où des statues ont été mises à bas et des reliquaires renversées. On voit donc l'importance de ce militantisme anticlérical qui va au-delà de la simple laïcisation. Signalons aussi, dans le cadre de ces sociétés de libre-pensée de l'action militante républicaine, anticléricale, la création de loges maçonniques, notamment celle de Beauvais, l'Étoile de l'Espérance, qui a été créée en 1865 et qui est la principale donc, loge maçonnique du Grand Orient dans l'Oise, bientôt suivie par une loge à Compiègne. Ce qu'on voit aussi apparaître dans le cadre général de cette hostilité, disons-le, à l'Église, c'est le fait qu'on assiste, après 1880, à une augmentation sensible du nombre de plaintes contre les desservants. Alors, ces plaintes, elles émanent soit d'une municipalité, le maire s'inquiète des agissements du desservant qui paraît trop réactionnaire, ou alors de particuliers qui trouvent à redire à la conduite du prêtre. Souvent, bien sûr, c'est l'engagement politique d'un prêtre, son immixtion dans les batailles électorales, qui suffisent à le dénoncer. Je prends quelques exemples, tirés bien sûr toujours des archives départementales. En 1886, l'abbé Outrequin, desservant de Trumilly, est placé d'office en maison de retraite suite à une plainte déposée par le conseil municipal du village, déclarée par le maire abusivement réactionnaire. Je cite. Le 8 octobre 1889, une lettre anonyme est envoyée au sous-préfet de Senlis. Elle dénonce le desservant de Mareuil-sur-Ourcq qui, je cite, « ne donne pas au bureau de bienfaisance de bons d'alimentation celui qui ne va pas à l'église ». Et donc, là encore, il y a des investigations et le prêtre va être transféré, donc muté. Même chose pour le desservant d'Auteuil-en-Valois 3 ans plus tard. Alors évidemment, les attendus politiques ne sont pas les motifs uniques de plainte à l'encontre des prêtres. On leur reproche aussi une trop grande intransigeance dans les examens précédant la première communion. L'idée générale étant que l'excès de zèle d'un prêtre, d'un desservant, ressemble à un abus de pouvoir, ce qui est quand même évidemment un petit peu curieux. Évidemment, les affaires de mœurs, pour rares qu'elles soient, font les délices des éditorialistes républicains radicaux. Par exemple, l'abbé Anotte de Gouvieux, mais c'est une histoire ancienne, en 1860, est convaincu d'avoir une liaison avec l'institutrice, qui était une congréganiste, circonstance aggravante. En 1884, l'abbé Crétenet de Chaman est quant à lui accusé d'avoir tancé méchamment une jeune fille au catéchisme en termes injurieux, sous prétexte qu'elle n'était pas assez assidue ni attentive. Mais tout cela est peu de choses au regard de l'affaire Frérot. Ce curé de Saint-Ine est accusé de meurtre. Sommé en 1883 de se défendre par son évêque, Mgr Desnel, évêque de Beauvais, harcelé par la presse anticléricale, au premier rang de laquelle la République de l'Oise de Beauvais, ce prêtre se suicide en 1883 et c'est une affaire qui prend une tournure, une envergure nationale. Bon, cela pour montrer qu'effectivement, entre 1880 et 1886, l'anticléricalisme fait des progrès dans le cadre de la simple laïcisation. D'ailleurs, pour donner un témoignage de cet anticléricalisme local, lorsque l'évêque de Beauvais, Mgr Desnel, quitte le diocèse en 1884 pour Arras, et là un diocèse bien plus pratiquant, il laisse dans son dernier courrier au clergé de l'Oise la description des départements, bien peu fidèle, où je cite « la sainte communion est délaissée, le sens moral est affaibli, la lutte contre l'Église fait de l'enseignement un champ de ruines ». Bon, on voit que le tableau n'est quand même pas très réjouissant. Comment l'Église peut-elle réagir face à la laïcisation ? Alors, évidemment, elle n'a pas beaucoup de moyens politiques, les élections lui sont défavorables, le nombre de prêtres ne progresse pas, il diminue même, puisqu'entre 1884 et 1904, le nombre de prêtres dans le département passe de 592 à 544. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ces chiffres feraient rêver le diocèse, mais c'est quand même une baisse de 10% en 20 ans. Alors, du coup, le nombre de paroisses sans desservant augmente. En 1904, il y a le quart des paroisses sans desservant. Donc, ça oblige à ce que j'avais appelé dans la première intervention, le binage, ce qui n'est pas évidemment satisfaisant pour la densification de la piété. Et toujours pareil, donc, plus les années passent, moins il y a de séminaristes originaires du Valois. Par exemple, sur les 202 séminaristes recensés entre 1889 et 1905, plus de la moitié viennent d'autres départements. Donc, évidemment, rares sont les familles qui fournissent des prêtres au diocèse, et rares sont les familles qui en fournissent deux. Alors, je cite cela parce que j'ai un exemple, quand même, d'une famille qui a fourni deux prêtres au Valois. C'est la famille Quiqueray. Il y a un abbé Quiqueray qui prend en charge en octobre 1884 la paroisse de Lévignan, qui célèbre sa première messe, donc, et il est assisté de son frère, le desservant de Gillaucourt. Je cite cela parce que c'est une disposition extrêmement rare dans le Valois de voir une famille fournir deux prêtres de la même génération, donc de la même famille, dans le Valois. On trouve ça en Bretagne, on trouve ça en Auvergne, on trouve ça même dans l'Artois, mais dans le Valois, c'est extrêmement, extrêmement rare. Alors, signalons aussi que beaucoup de prêtres, lorsqu'ils sont installés dans une cure qui est confortable, où le casuel est important, donc beaucoup de mariages, de baptêmes, etc., restent très longtemps, ne demandent pas leur mutation. On peut citer quelques exemples de prêtres qui restent sur le long terme. L'abbé Balédan, arrivé à Versigny en 1873, y est encore en 1906. L'abbé Tartanson, à Marolles, qui célèbre en 1890 sa 51e année de sacerdoce. Ce sont quand même des exemples d'une constance donc, dans le poste. En 1884, arrive sur le siège épiscopal de Beauvais, Monseigneur Péronne. Alors Monseigneur Péronne, bien sûr, est confronté à la crise des vocations, à l'impiété ambiante, et reçoit toujours donc des rapports de desservants alarmants, ces rapports qui sont annuels. Et naturellement, toujours pareil, une constance des descriptions réitérée depuis 1870. Un point important aussi que j'ai oublié de signaler, lorsqu'on consulte les archives diocésaines, on est assez frappé du nombre de desservants qui décèdent assez jeunes, à côté de ceux qui restent longtemps. Il y a beaucoup de prêtres qui contractent des maladies, ce qui est un petit peu normal parce que leur ministère les oblige à approcher des malades. Et si je cite par exemple 1884, quatre jeunes prêtres meurent dans le seul archiprêtré de Senlis. Je cite parmi eux l'abbé Denain, desservant de Fresnoy-la-Rivière, emporté par l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévissait alors dans le Valois. Donc il y a aussi ce paramètre à ne pas négliger, il y a des fièvres endémiques qui peuvent être contractées par les prêtres dans l'exercice de leur fonction. Alors Monseigneur Denel, lui, reprend donc un diocèse en difficulté. Alors ce qu'il fait surtout, c'est qu'il essaye de visiter les paroisses, c'est ce qu'on appelle les visites pastorales. Il encourage bien sûr à la mobilisation des catholiques. Et il fait paraître des mandements dans lesquels il essaye de dénoncer les adversaires de l'Église, parmi lesquels donc la franc-maçonnerie. Alors en 1884, Monseigneur Péronne, qui est le successeur de Monseigneur Denel, reprend l'encyclique pontificale du pape Léon XIII, Humanum Genus, qui dénonce la franc-maçonnerie. Et Monseigneur Denel, dans son mandement d'accompagnement, dit de la franc-maçonnerie, je cite, que c'est l'action de Satan, le perpétuel adversaire de Jésus-Christ et de son Église. Il ajoute que c'est une secte luciférienne. Encore que, je le rappelle, dans le Valois, la densité des loges est faible.